Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
L'afterfoot avec Florent Gautreau, avec Walid Acharchour. On est ensemble jusqu'à minuit, ces derniers quarts d'heure de ce vendredi soir. Et c'est parti pour les huitièmes de finale de l'Euro demain. Suisse-Italie à 18h, Allemagne-Danemark à 21h. Polo Breitner est avec nous. Bonsoir Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
J'accueille également un homme qui est en sursis dans cet Euro, pour qui chaque jour est, c'est du bonus. Johan Crochet est là également ce soir. Bonsoir mon cher Johan.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Est-ce qu'on se dit aussi en Italie ou pas que voilà, on a un peu des miraculés, on a failli y passer. D'ailleurs, on a vraiment failli y passer hein, quand on a vu la fin des troisième journée.
Mais même Johan qui suit les Pays-Bas, et à un moment donné, ça a été chaud aussi pour les Pays-Bas.
C'est vrai.
Pays-Bas, Italie, t'aurais pu.
L'Italie, heureusement que Zaccagni a marqué parce que lors de ce match, du côté de l'Italie, même avec une défaite, tu n'étais pas éliminé. En attendant d'avoir les résultats des autres groupes qu'il restait pour le classement des meilleurs troisièmes. Et ben, une fois ces matchs disputés, l'Italie n'était même pas meilleure troisième avec le nombre de points qu'elle avait après la potentielle défaite contre la Croatie. Donc, effectivement, heureusement que Zaccagni a sauvé la patrie et a réussi à marquer ce but à la 98e minute.
Tu me disais aussi tout à l'heure quand on préparait l'émission, Johan, car oui, on s'appelle avant les émissions. Polo répond plus à mes appels, j'ai remarqué également. C'est vrai, tout à fait, c'est assumé, je crois, voilà. Polo ne veut plus des échange hors antenne avec moi. Peu importe, ça ne vous regarde pas. Johan, est-ce qu'en Italie, on se dit également qu'on a peut-être une chance quand on regarde la partie de tableau dans laquelle on est tombé?
Alors, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est une espèce de lueur d'espoir en se disant, déjà, si on arrive à passer l'obstacle suisse, qui sera vraiment tout sauf simple, on est dans la bonne partie de tableau. Bon, il faudra déjà éventuellement aussi passer par l'Angleterre en quart de finale. Mais malgré tout, effectivement, on a tous remarqué qu'il y avait une partie très très forte et une partie un peu plus jouable. Et l'Italie est dans la bonne partie de tableau. Mais il n'y a pas un enthousiasme démesuré parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais ce que tu as produit, surtout lors des trois premiers matchs de groupe. Mais il y a cette petite lueur en te disant, si ça veut sourire face à la Suisse, on est dans une partie de tableau, un petit peu plus simple que de l'autre côté où il y a à peu près tous les ténors.
Puis il y a un petit passé quand même historique.
Ah ouais, 1982, il y a un gros passé.
C'était il y a 32 ans.
Même récent, non
1982 par exemple. Mm-hmm. Ceux qui se rappellent les matchs, l'Italie bénéficie de décisions arbitrales qui leur permettent d'être qualifiés alors qu'ils auraient dû sortir lors du match de coupe. Et ben ils finissent. C'était une autre équipe d'Italie qu'on a lors des matchs à élimination directe et qui devient logiquement championne du monde avec des matchs mythiques contre le Brésil, l'Argentine, etc. Quoi.
Ouais, en faisant trois matchs nuls dans la première.
Ouais, des erreurs d'arbitrage monstrueux.
Polo, est-ce que les Suisses sont maintenant totalement décomplexés avant d'affronter l'Italie? Alors, je parle de l'évolution et des progrès suisses, mais également de la phase de poule.
Alors, si tu suis la presse suisse en ce moment et helvète, t'as le sentiment qu'une élimination demain contre l'Italie serait vécue comme une contre-performance. C'est quand même, je trouve, un petit peu fort de café quand on sait que les Suisses n'ont pas battu les Italiens depuis les années 90, qui restent sur 6 matchs nuls et 5 défaites. On peut revenir sur le dernier Euro où les Suisses se sont pris un 3-0. Mais c'est vrai que le niveau de jeu des Suisses, le fait que Murat Yakin, très critiqué finalement, change ses compos systématiquement. Demain, on aura évidemment côté piston droit une surprise. Est-ce que ce sera Sterju, le joueur remplaçant de Stuttgart, qui sera titulaire, ou est-ce qu'il va nous sortir un nouveau lapin de son chapeau? On verra ce qu'il va faire Murat Yakin. Mais c'est vrai
parce que Wittmer est suspendu, Polo.
Ouais, Wittmer est suspendu. Ouais.
Il a fait une belle phase de poule, lui, en plus.
En plus, ça fait une belle phase de poule. Mais en fait, c'est surprenant parce que t'as l'impression, et moi c'est un petit peu ce que je critique dans ce pays-là depuis quelques années, t'as le sentiment qu'ils sont capables, on le sait, d'embêter toutes les grosses cylindres européennes, mais on a le sentiment qu'à chaque fois, ils veulent percer le plafond de verre, et que 2021, c'était normal, que ce qui s'est passé en 2022, c'était presque un accident, et J'ai pas envie de dire qu'ils vont aller très très loin, c'est très bien pour eux, mais je crois pas qu'on ait non plus une sélection suisse qui puisse être comparée avec les grandes sélections qui dataient de 60, 70 ans, quoi. Donc c'est quand même un petit peu spécial. Moi je reste un petit peu sur ma faim, sur ce que j'ai vu, offensivement notamment. L'animation offensive de la Suisse n'est pas performante. Alors Ndoye était très critiqué, puis comme il marque contre l'Allemagne, non, mais... évidemment, c'est le sauveur aussi. Donc il faut aussi relativiser, je pense, cette rencontre qui va, je pense, être très compliquée pour l'Italie. Mais de là à ce que la Suisse y va finger in the nose, puisqu'on parle anglais maintenant, dans cette rencontre, ça me semble complètement délirant, au minimum, lorsque tu regardes l'historique entre les deux nations.
Les Suisses sont-ils favoris face à l'Italie? Tiens, Wally, t'en penses quoi?
Sur la dynamique, oui. Après, la Suisse reste la Suisse, l'Italie reste l'Italie. Donc, quand on voit les derniers parcours à l'Euro, je l'ai déjà dit hier, à chaque fois, l'Italie nous a agréablement surpris. En 2016, je les voyais pas se faire éliminer en quart de finale contre l'Allemagne au tir au but, battre l'Espagne. En 2021, je veux même pas en parler. Donc, ils ont toujours ce supplément quand ils sont dans ce type de compétition. Et la Suisse reste la Suisse. C'est souvent une belle équipe en phase de poule. Je me rappelle qu'en 2018, ils avaient tenu en échec le Brésil. C'est une équipe qui est compétitive en début de tournoi, un peu moins quand ça avance. Mais oui, moi, quand je vois la compo annoncée par Sky, je crois ce soir de l'Italie, il va nous dire tout à l'heure, mais ça fait quand même très très peur. Je me dis que la Suisse a quand même une grande chance d'aller chercher ce quart de finale. Surtout que moi, même si je suis d'accord globalement avec Polo, je trouve que avec l'incorporation d'un Mbolo devant, avec un Ndoye qui sur les deux premiers matchs était quand même pour moi l'un des plus dangereux, voire le plus dangereux, mais qui avait un problème d'efficacité. Peut-être que ce but contre l'Allemagne va lui faire du bien. Je pense qu'ils ont à toutes les lignes une équipe compétitive pour sortir l'Italie. Après, ça reste théorique. Il va falloir qu'ils le montrent sur le terrain demain.
Je trouve pas que ce soit usurpé de dire. Alors évidemment, si l'Italie passe devant, on dira bah voilà, c'est l'éternelle Italie peut-être. Mais si on est là pour analyser ce qu'on a vu sur le premier tour.
Dynamique.
Non seulement la dynamique, mais je trouve aussi ce dont Polo a parlé sur les compos de Yakin, la boîte à outils qu'il a. Et moi, je pense que pour un adversaire et pour un sélectionneur adverse, c'est hyper compliqué de préparer ton équipe contre la Suisse, étant donné les compos, on va dire, surprises qu'il a réussi à mettre en place. Pas Shaqiri.
En fait, Abisher, Piston, milieu.
Voilà, Piston, t'as plein.
Ça, c'est la sacrée surprise. Bien Abisher, sûr. Piston, honnêtement, personne ne l'a
vu. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup. La fameuse imprévisibilité dont je parlais tout à l'heure.
Déstabilisante.
Elle est très déstabilisante pour les adversaires. Donc, de ce qu'on a vu en phase de groupe, avec cette imprévisibilité, et surtout avec les qualités quand même qu'on a vu côté Suisse, et moi je trouve logique que la Suisse soit favorite de ce match. On sait parfois que les favoris passent pas, hein.
Johan, on en parlait tout à l'heure aussi, Walid,
niveau cote, l'Italie est favorite.
Voilà, elle est favorite, mais en tout cas il faut s'attendre à des changements importants dans le 11 qui va débuter demain côté italien.
Ouais, exactement. Walid parlait de la compo de Sky. Déjà, Luciano Spalletti, en conférence de presse de veille de match, a annoncé qu'il jouerait à 4 derrière, avec Gianluca Mancini titulaire pour remplacer Calafiori qui est suspendu. D'ailleurs, très intéressant d'entendre Luciano Spalletti nous expliquer qu'avec ce retour à la défense à 4, c'est quand même mieux de jouer avec un droitier et un gaucher en charnière centrale, lui qui a débuté les deux premiers matchs à 4 avec deux gauchers dans la charnière. Pourquoi pas, évolution en cours d'euro, évolution de pensée sans doute, avec donc Donnarumma évidemment dans les buts. D'ailleurs, Donnarumma en une de la Gazzetta aujourd'hui, avec une sorte d'incitation à faire le boulot à lui tout seul, à s'occuper des Suisses. On sent bien que c'est le joueur majeur de cette sélection.
Il sera le gros facteur X, évidemment.
Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian sur la défense à 4. Milieu de terrain renforcé, Barella, Fagioli, Cristante pour le côté physique. Mais alors moi, Cristante face à l'agressivité et à l'intensité des Suisses, je demande à voir, et je suis vraiment pas très optimiste sur sa prestation. Et Chiesa, Scamacca, El Shaarawy sur le trio offensif. Donc Chiesa, El Shaarawy, c'est quoi? C'est des joueurs de 1 contre 1 qui vont vite vers l'avant, qui amènent beaucoup de verticalité, qui peuvent dribbler. Et El Shaarawy à gauche, c'est aussi une arme en plus, parce que c'est sans doute celui qui frappe le mieux de l'extérieur de la surface.
El Shaarawy, on
n'a pas des stats incroyables
cette saison. On l'a un peu perdu de vue, Johan, ça donne quoi là,
ouais, Roma, cette saison, comment tu la qualifierais, cette saison à la Roma là? Moi, je vois 3 buts, 4 passes, mais c'est pas que ça.
Il faut regarder par rapport au
joueur offensif, voilà.
Il faut aussi regarder par rapport au temps de jeu, il faut aussi regarder qu'avec José Mourinho, il jouait comme piston gauche, et non pas un poste très offensif. Ah ouais. Donc ça fait plusieurs saisons d'ailleurs qu'il joue plutôt piston gauche qu'un poste plus offensif. Moi, c'est pas un crack. C'est jamais devenu le crack qu'on pouvait imaginer lors de ses débuts. Par contre, c'est un joueur qui est extrêmement régulier. Moi, j'ai très peu de matchs où je me dis il passe totalement à côté. Alors peut-être que ça sera le cas demain, malheureusement pour l'Italie et pour lui. Mais c'est quelqu'un qui est très linéaire, qui a quand même cette capacité de dribble et de déstabilisation des défenses, qui est capable aussi de marquer et d'être un joueur majeur dans les grandes rencontres, qui a beaucoup d'expérience maintenant. Donc je trouve pas ça... j'allais dire un mot un peu grossier, je trouve pas ça
déconnant,
bête de la part de Spalletti de le mettre titulaire. De toute façon, on le sait très bien, sur les côtés, il y a un vrai déficit, on le sait. À gauche, il y en a un. Si tu mets pas Chiesa,
c'est ça.
Mais comme t'as pas pris d'ailier droit, t'as pas pris Orsolini, t'es obligé de mettre Chiesa à droite. Donc à gauche, c'est où
Zaccagni. Je pensais voir Zaccagni, moi, qui après ça, après son but, moi.
Ouais.
Ouais, mais il faut pas non plus que le but de Zaccagni te le fasse passer pour un phénomène non plus, tu vois. Donc même si Zaccagni avait été le meilleur ailier il y a 2 ans maintenant en Serie A, meilleur ailier italien, j'entends. Mais c'est pas un joueur, voilà, Zaccagni, combien de matchs européens il a, combien de grands matchs il a en Serie A, pas tant que ça. Alors il a été décisif dans un derby romain il y a pas si longtemps que ça. Mais Zaccagni ou El Shaarawy, t'es sur du 7 sur 10, quel que soit le joueur, hein, t'es pas sur du top player.
On a 2 minutes, les amis, pour parler d'Allemagne-Danemark. Avec Polo, 21h à Dortmund demain. Bon, il y a une inquiétude concernant la météo aussi, je vois qu'on s'affole un peu.
Ouais, ouais, alors ça.
Gros risque d'orage, de rafales de vent, tornade, pas exclu également, ça peut avoir son.
Et on ne sait pas si le match pourra avoir lieu.
Ouais.
On en est là en ce moment. Pour l'instant, il est prévu, mais en effet, les tempêtes qui s'abattent sur l'Allemagne font que ça risque d'être compliqué demain. Mais voilà. Et puis la deuxième incertitude, c'est évidemment la composition du groupe de départ. Et lorsqu'on écoute Nagelsmann en conf de presse, eh ben on sait qu'il y a un changement. C'est Schlotterbeck qui remplace Tah suspendu. Et comme Rüdiger s'est entraîné, et comme dit-il Nagelsmann, j'ai besoin d'un plan B. Le fait de titulariser Füllkrug demain, c'est pas gagné. Donc on risque d'avoir le même 11 de départ avec Schlotterbeck à la place de Tah, seulement avec Havertz devant. Très clairement, la presse allemande s'est un peu calmée après le match contre la Suisse. On a vu qu'elle était un petit peu friable, cette Nationalmannschaft. Et encore une fois, elle n'a pas de vécu dans un tournoi final depuis longtemps. Cette sélection avait beaucoup de nouveaux joueurs. Donc tout ça fait que, quand tu connais la qualité du Danemark, et même si le Danemark n'a pris que 3 points finalement avec 3 matchs nuls lors du match de poule, eh ben ce match est très compliqué. On est parfaitement conscient qu'il va falloir augmenter le niveau, tout en sachant que s'il passe ce 8e de finale, beaucoup d'anciens internationaux allemands estiment que l'Allemagne n'a pas le niveau à sortir pour sortir l'Espagne. Donc voilà, on attend un énorme changement demain, une véritable équipe d'Allemagne qui domine, etc. On sait que ce sera pas compliqué, de toute façon contre le Danemark c'est jamais facile, mais voilà, on en est là en ce moment. En espérant que le match ait lieu, évidemment.
Tu seras là demain, Polo. Bien sûr, dans l'avant-match, dans l'après-match, pour l'after. Allemagne-Danemark, 21h. Italie-Suisse à 18h. Johan sera là aussi également. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Merci,
merci
Polo.
Beaucoup.
Merci, Johan.
Bonne vacances, ciao, ciao. Nico.
Bonne vacances, Nico.
Merci, les gars.
Je rappelle que lundi, exactement, pour l'équipe de France, on sera vers chez toi, Nico.
Exactement. À Artigues, dans le club où tout a commencé pour Aurélien Tchouaméni. Lundi, venez nombreux voir Flo, voir Daniel. Tony Vérel sera là également.
Et pour nous toucher. On est super dispo. Super,
en vrai,
il est accessible.
Flo est très costaud.
Oui, ouais. Puis il a une belle peau. Donc si vous le touchez, vous allez voir si c'est pas désagréable.
Belle peau. Ouais. N'attendez pas à minuit une.
Rendez-vous lundi à Artigues pour l'after en direct.
Merci, hein, merci Nico. Bonne
Gironde. Merci Walid.
Cette belle saison,
tout ce qui a fait un plaisir. Hein.
Mais c'était un plaisir aussi.
Souvent sur mes côtes, mais c'était un plaisir.
Ouais, tu m'as bien accompagné.
On est là uniquement pour ça.
Pour les sons d'anglais et tout,
je suis déçu, j'ai pas le bon rendez-vous à la rentrée pour le jingle. Walid,
un jingle tout frais, celui-là je l'ai fait
good
pour
luck
toi. Je l'ai fait pour toi.
Ah, on l'a, et c'est parti, on l'écoute, et bonne soirée à tous.